De Palerme à Chicago, d'Istanbul à Tokyo, de Shanghai à Marseille. Les mafias ne naissent jamais par hasard. Faiblesse des États, corruption des élites, les causes sont nombreuses et connues. Nées dans le secret, les mafias prospèrent dans la clandestinité, déploient leur réseau dans l'illégalité et pénètrent tous les lieux de pouvoir. Leurs colossaux profits irriguent les marchés d'une économie noire. Leur puissance menace aujourd'hui nos démocraties. L'une des mafias les moins connues et pourtant des plus puissantes se niche au cœur de l'Europe. La mafia corse étend sa toile sur tous les continents depuis un siècle. Elle n'a pu exister et se développer qu'avec la complicité d'une partie de l'État français. C'est l'histoire de cette relation dangereuse que racontent ces films.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Au cinéma, les gangsters et les mafiosi sont, pour les réalisateurs, l'occasion de camper des personnages fascinants, truculents, voire carrément séduisants, comme le furent par exemple Delon et Belmondo dans Borsalino ou Al Pacino en Michael Corleone. Mais à la fin, comme il se doit, la loi et la justice, sinon la morale, doivent triompher, même bien abîmés, comme Gene Hackman en Flic qui parvient à démanteler la French Connection. Ces bons films que nous revoyons toujours avec le même plaisir innocent, nous savons pourtant vaguement qu'ils ont été inspirés peu ou prou par des faits réels, que la collusion de ces malfrats avec des hommes politiques et des policiers ripoux ne se cantonnent pas toujours au seul écran et pas uniquement aux États-Unis. D'ailleurs, de temps à autre, chez nous, un scandale d'État comme l'affaire Elf et des morts en série en Corse ou à Marseille nous rappellent que derrière le fait divers se cache la gangrène politique. Mais que savons-nous de l'étendue du mal et comment relier ces affaires entre elles pour en tirer une histoire ayant du sens ? La passionnante série documentaire « Mafia et République » qui sera diffusée ce mardi 7 février à 20h55 sur Arte nous permet de relier des noms, des faits, des affaires dont la lecture des journaux depuis des décennies avait laissé en nous quelques traces. Tout à coup, les connexions entre carbone et spirito dans le Marseille des années 30 et la personnalité sulfureuse d'Étienne Léandri, un ami de Charles Pasqua, cité dans l'affaire Elf, deviennent claires. La puissance du clan Guérini à Marseille, la guerre des salles de jeu, la French Connection, l'affaire Markovitch, le scandale Elf, le gang de la Brise de Mer, ainsi que les règlements de compte entre nationalistes corses, chaque pièce du puzzle prend soudain sa place pour dessiner dans une chronologie implacable le tableau d'une France mitée par la corruption. Christophe Bouquet, qui a réalisé ce film en trois volets, et Christophe Nick, qui l'a écrit avec Pierre Péan et Vanessa Ratignier, sont aujourd'hui tous les deux les invités de l'Humeur Vagabonde.
Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I will show you around. I love it that you bottom dollar, you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sunday couldn't shut down. On State Street, that great street, I just want to say, they do things they don't do on Broadway. They have the time of their life. I saw a man, he danced with his wife in Chicago, Chicago, my hometown. Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I'll show you around. I love it that you bottom dollar, you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sunday could not shut down. On State Street, that great street, I just want to say, they do things that they
never do on Broadway. Say, they have the time of their life. I saw a man and he danced with his wife in Chicago. 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 That's my hometown.
Bonjour Christophe Bouquet.
Bonjour.
Bonjour Christophe Nick.
Bonjour.
Ce film, vous me le disiez il y a un instant, Christophe Bouquet, vous avez mis 2 ans pour le réaliser vraiment, mais vous, Christophe Nick, il y a bien plus longtemps que vous le portiez. Est-ce que ça a été un projet particulièrement compliqué à réaliser et pour quelles raisons ?
Plein de raisons. D'abord parce que c'est né d'une conversation avec Pierre Péan, qui m'appelle en me disant « Tiens, ça commence à m'intéresser ce truc-là ». On s'est dit tout de suite « Ça, c'est vraiment quelque chose d'énorme, le lien entre l'État et la mafia corse. Qu'est-ce qui s'est passé, etc. » Là où c'était horriblement compliqué, c'est que très vite, on s'est retrouvé dans les années 30, que on s'y attendait pas. Je pensais vraiment que c'était une histoire de
plus récente,
de la guerre froide, voilà, qui naissait là. Et à ce moment-là, l'histoire est tellement incroyable, je me dis « Sa force est dans les détails. » Et donc, quand on en est là, on est plutôt tenté par de la fiction. Voilà. Donc, on a d'abord eu un gros travail qu'on a fait avec Abdelraouf Darfi, avec Andrew Bamfield, des grands scénaristes, pour essayer d'imaginer comment transformer ça en fiction. Les diffuseurs n'aimaient pas ça. Donc c'est Arte qui par contre, s'est enthousiasmé pour l'idée d'en faire un documentaire. Et là, donc, on a dû repartir dans une autre écriture pour trouver des époques, comprendre le sens, etc. Et de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir raconter ça au début avec le peu d'archives qu'il y a. Et grâce à Christophe Bouquet, voilà, on a utilisé d'autres sources d'archives qui redonnent vie à cette époque.
Effectivement, Christophe Bouquet, ce film repose sur deux piliers. C'est les archives de l'époque qui nous remettent des choses qu'on a quand même comme un bruit de fond dans la mémoire, mais comme je le disais, qui ne nous donnent pas beaucoup de sens. Et puis les témoignages des acteurs impliqués, des témoins de l'époque, des juges, des policiers. Ça a été aussi... difficile de les convaincre tous.
Disons que pour les deux premiers films, de 1929 à 75, c'était assez facile de convaincre les historiens.
Oui, l'histoire, c'est voilà. Il y a
donc
la distance.
On a eu tout de suite la chance de rencontrer Paul Jankowski, un historien américain spécialiste des années 30 à Marseille. Et puis, ce qui a été difficile, ça a été de convaincre en fait la fille en fait de Mémé Guérini.
Barthélémy Guérini,
donc les deux frères Guérini, qui sont en fait les parrains, enfin des figures très très importantes de ce qu'était la French Connection, et surtout à Marseille. En fait, ils contrôlaient l'entrée du port, pas forcément les cargaisons, mais ils faisaient office de douaniers, donc en fait, ils contrôlaient vraiment les réseaux. Et ça a été un travail, ça nous a mis 6 mois, enfin à peu près, avec Vanessa Ratigné, qui a appelé une fois par mois, et puis une relation de confiance. Et maintenant, presque d'amitié, s'est mis en place et du coup, elle nous a ouvert ses archives familiales, entre ses coupures de presse et les photos de famille. Donc, on est allé chez elle, on a passé 2 jours ensemble et ça a été une interview fleuve très longue. Voilà.
Ce film, c'est 3 films, donc on va voir mardi 7 sur Arte à partir de 20h55. Il commence effectivement en 1929. Il commence à Marseille et quand on dit mafia, on dit Corse forcément. On sait qu'aux États-Unis, quand on dit mafia, on a les Italiens, on a les Chinois, on a des tas de mafias différentes, les Russes.
Jewish Connection,
voilà,
et tout.
En, voilà. Fait, en France, pour vous, c'était évident, c'était les Corses, Christophe Nick.
C'était pas évident, mais une mafia suppose une culture partagée, une structure, des liens, un système organisationnel, si on peut pas parler d'organisation au sens strict, et une immense cohésion. Voilà. Donc il y a peu de cultures qui peuvent en permettre l'émergence. Maintenant, c'est aussi, ça apparaît dans des endroits où l'État est totalement défaillant. Ça apparaît dans des endroits où il y a des rapports sociaux qui le permettent, le clanisme, l'isolement, le besoin de trouver une autre forme de justice, voilà, qu'on va retrouver aussi dans les triades chinoises, qu'on retrouve à chaque fois qu'émerge ce genre de structure. Donc l'idée corse, elle n'était pas évidente, elle était d'autant moins évidente que, au fond, jusqu'en 2012, personne n'utilisait le mot mafia corse. C'était un tabou, on parlait de grand banditisme, on parlait de crime organisé, on parlait de choses comme ça.
Mais c'était juste un hasard s'ils avaient tous des noms qui se terminaient par Ini ou Oni ou...
Non, mais il y avait pas, c'était mélangé dans un grand fourre-tout où on pouvait trouver Francis le Belge, on pouvait trouver voilà des grandes figures du banditisme, une criminalité pied noir qui a été très importante aussi. Donc voilà, on pouvait tout mélanger et effectivement a priori tout le monde avait intérêt que ça apparaisse mélangé. Là où ça a beaucoup changé, c'est effectivement l'arrivée d'une nouvelle génération politique en 2012, qui sait ce qu'est le blanchiment d'argent, qui s'est beaucoup inquiété depuis les années 90 avec le juge Van Rimbeek, avec le travail de Denis Robert, tous ces rapports qui sont sortis du poids de l'argent sale dans les économies mondiales et qui était alerté. Et quand, c'est un hasard, mais effectivement, quand François Hollande a pris le pouvoir, quelques semaines plus tard, le bâtonnier de Corse et le vice-président de la Chambre de commerce ont tous les deux été assassinés. Et là, on voit effectivement pour la première fois un pouvoir politique, Manuel Valls, Christiane Taubira, Jean-Marc Ayrault, prononcer le mot devant les écrans « il y a une mafia en France ». Et il y a comme un tabou qui a sauté à ce moment-là. C'est-à-dire que quand on nous faisait des films mignons qui s'appelaient les tontons flingueurs, des gentils SAS, ben non. En fait, c'était une mafia. Elle a mis 100 ans à créer un système qui, génération après génération, pénètre un peu plus les niveaux de pouvoir. Mais en même temps, c'est surtout, et c'est ça qui nous intéressait, c'est pourquoi un État peut en avoir besoin? Qu'est-ce qui fait qu'au point de départ, 1, 2, 3 politiciens se sont tournés vers eux et ont créé cette machine.
Alors, ça commence justement à Marseille, dans les années 30, Carbone et Spirito.
Donc, ces deux hommes-là, s'alliant de manière indissociable, c'est un petit peu la force et la ruse, la brutalité de Spirito, parce qu'en fait, il a sous un dehors de quelqu'un de poudré, d'extrêmement maniéré. C'est quelqu'un d'extrêmement violent qui est prêt à tuer pour dominer la scène, la pègre marseillaise. Et puis Carbone, donc, qui a fait les 400 coups et qui n'a absolument peur de rien. Donc les deux font la paire et les deux, ils dominent la ville.
L'ascension de Carbone et Spirito est vertigineuse. Ils ont sous leurs ordres une armée de nervis, des gérants de bars autour du quartier de l'Opéra, des maisons closes dans le panier, des contacts en Asie, au Proche-Orient et aux Amériques, où commence à se structurer la mafia sicilo-américaine.
Alors évidemment, on ne peut pas faire ça sans avoir des amis et des protections. Il fait mention dans des rapports que j'ai découverts de pots de vin qui sont versés à des policiers de manière à faciliter le trafic dès cette époque-là. En revanche, ils ont aussi besoin de protection politique. À Marseille, c'est évidemment important.
C'était la voix de Vincent Douzy, journaliste, l'un de vos grands témoins, Christophe Bouquet. Et il y a des archives, parce qu'effectivement, ce qui se passe à Marseille dans les années 30, c'est l'alliance d'un homme qui s'appelle Simon Sabiani, qui est socialiste, et qui a rencontré en fait Carbone sur le champ de bataille de la Grande Guerre. Une amitié est née. Et l'alliance politique va naître de là, parce que qui dit s'imposer à Marseille, une ville dure, un port où il y a beaucoup de corruption, Sabiani avait besoin d'hommes de main, tout simplement. Et ça, c'est un système qui a perduré, au fond, jusqu'à il y a peu de temps encore à Marseille. Les hommes politiques ont besoin de gros bras pour coller des affiches, pour régler des problèmes.
Oui, à Marseille, en fait, au moment où Sabiani veut s'imposer, c'est vrai que lui, il a pas de parti qui le suit. Donc, il doit en fait avoir une force avec des hommes de main assez immédiate en fait pour prendre le pouvoir. Je pense pas qu'il en ait vraiment conscience. Il y a pas quelque chose qui se met en place à ce niveau-là. C'est une politique, c'est le clientélisme. Lui, il a toujours fonctionné comme ça. Ceux qui savent, par contre, qui se passe, c'est Carbone et Spirito. Eux, ils comprennent ce qui est en train de se jouer pour eux.
Mais en fait, c'est un système qui va perdurer, mais y compris dans les affrontements politiques. Chaque clan politique va avoir son clan de mafieux.
Là où ça dérive, c'est que la promesse qui est faite dans cette alliance, qui existe un peu partout, enfin des hommes politiques ambitieux, etc., ont besoin, face à un parti communiste, un parti socialiste ou des radicaux, d'avoir un service d'ordre. On va chercher des truands qui vont faire le nettoyage. Bon. Là, la différence, c'est que dans le deal qu'il y a entre Carbone Spirito et Sabiani, il y a la promesse que si Sabiani gagne, il ouvre le bureau d'embauche de la mairie de Marseille aux hommes de Carbone et Spirito. Et là, on voit en quelques années des dizaines et des dizaines de types débarquer, que ce soit à la tête de la piscine, du cimetière, du gardiennage, du stade de foot, etc.
Et des pompiers,
des pompiers qui sont purement des truands. Quand en 35, le Front populaire fait basculer la majorité, que Sabiani perd et que ce sont les Guérini qui se retrouvent adossés à la SFIO, eh ben on va continuer le jeu. C'est les Guérini qui ont accès au bureau d'embauche et on se retrouve à la fin des années 30 avec des centaines de types payés par la mairie et qui sont en fait des proxénètes, des braqueurs, des ordures absolues. Donc on a un système qui se gangrène en 10 ans. À la limite, les hommes politiques ferment les yeux parce que ça les arrange, mais le pacte mafieux, il s'est passé entre Carbone Spirito et les Guérini. Au moment où il y a cette bascule où Guérini aide les socialistes à prendre la mairie contre Sabiani, ils ont le choix. On s'entretue ou on pactise.
Et il y aura un partage.
Eh ben oui, et c'est là où il y a un changement de génération et où il y a une vision. Carbone a une vision. Une vision de business, d'entrepreneur, de ce qui aux États-Unis on va appeler un syndicat du crime, de mutualiser, de partager, de créer des territoires. Toi tu feras ça, moi j'ai un pourcentage sur un peu tout. Et on se partage, on a intérêt à travailler ensemble.
Et la guerre va arriver là-dessus, et bien sûr là il va falloir choisir son camp. Alors Sabiani va revenir dans le jeu politique, puisqu'il est passé d'une branche du Parti Socialiste au PPF de Doriot, oui. Donc il va s'allier avec les Allemands, il va entraîner avec lui ses mafieux, c'est-à-dire le clan Carbone, alors qu'en face, les Guérini vont choisir de soutenir une branche de la résistance, Brutus, le réseau Brutus, animé par Gaston Defer. Et en fait, ce lien que l'on va beaucoup reprocher ensuite à Gaston Defer, il se crée là aussi sur le terrain de combat de la guerre. Et les Guérini, ensuite, à la Libération, vont aider Gaston Defer à récupérer la mairie.
Absolument. Mais ce qui est fascinant dans cette période d'occupation, c'est d'abord que les nazis ont besoin des truands. C'est-à-dire que c'est vraiment un pouvoir politique qui va là changer de la dimension du problème en allant recruter, en sortant de prison. Des centaines de truands vont faire la carlingue. On est avec Bonnier Lafont, on est Carbone et Spirito dans la zone sud. Et c'est autour de mafieux que doit se créer le système qui va permettre la spoliation des juifs, la traque des résistants, des trucs comme ça. Et donc c'est vraiment un appareil répressif, policier, de police secrète, qui met la main dessus. Jusque-là, dans l'histoire de la République française, on n'était qu'avec quelques hommes politiques. Particulièrement véreux. Là, on rentre dans l'appareil d'État. Et la police se met à travailler avec des truands pour le compte de la Gestapo. Quand, effectivement, la résistance va avoir besoin de plastiqueurs, d'exécuteurs, de trucs comme ça, c'est sûr que là aussi, ça court pas les rues.
Il faut avoir des gens qui savent manier les armes.
Évidemment. Et donc, il va y avoir autour de Marseille, parce que les Guérini sont sincèrement, en tout cas mémés, et sincèrement de tradition familiale, quelqu'un de gauche, même s'il sait pas lire, il sait pas écrire, il a cette fibre sociale.
Il est hostile à l'occupant, en tout cas.
Mais voilà, il aime pas, voilà, l'occupation. Et il y va sincèrement. C'est un patriote. Ce qui fait qu'à la Libération, alors certes, il aide Defer à prendre le pouvoir, mais on se retrouve avec un pouvoir politique aussi bien gaulliste que SFIO, troisième voie, si on veut, qui a comme homme de main, homme capable d'être violent. Toute une branche du banditisme, celle qui n'a pas collaboré. C'est la CIA après, c'est la guerre froide qui va faire le travail. Donc à chaque fois, ce qui était intéressant dans la série, c'était pas tant de regarder l'évolution des truands, c'était de voir qu'est-ce qu'un État va chercher en s'adressant à des mafieux.
Pour ces bases œuvres, effectivement. On va écouter un autre extrait de votre film à tous les deux. Pris dans le deuxième film, justement, cet après-guerre, c'est Vincent Nouzi, toujours le journaliste, et Marie-Christine Guérini, la fille de Mémé.
À partir de 1953, Gaston Defer devient le maire de Marseille et va s'en suivre un long règne à la mairie de Marseille, où il va à la fois toujours faire attention de ne pas apparaître comme étant redevable à la pègre de ses élections, de son pouvoir, de son influence, mais où, évidemment, personne ne peut nier, et tout le monde sait en ville, que Gaston Defer a des amis qui sont des Corses, a des amis qui sont dans la pègre, et dans ses gardes du corps, dans ses anciens lieutenants de la résistance, figure les Guérini, qui, dont on le sait, ont fait le coup de main et font le coup de main pendant ces campagnes électorales.
Moi, quand je voyais Gaston Defer, ou à la maison, ou comment mon père se déplaçait pour aller le voir, près de l'église Saint-Victor, il avait un appartement. C'était terrible, terrible. Oui, on t'a donné ci, tu nous as pas rendu ça. Puis alors, tu te prends pour qui? Mais alors maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et ils sentaient finalement, les frères Guérini, donc mes parents, la famille sentait que, c'est la vie, hein, que petit à petit, Gaston, il prenait ses arrières pour un jour les lâcher, quoi. Pour dire un jour, mais non, on m'avait jamais rendu service. Bon, bah, c'est dans la logique des choses.
Dissiper les masses mouvantes des dissiper les masses mouvantes des tourneaux dans le matin pâle. Aujourd'hui avale, quelqu'un du pays avale, venu jusqu'au puits avale, dans le matin pâle, avale, au nom de la nation, la nation. La nation, la nation. Tôt, on le voit tomber tôt. On voit tomber son seau dans le matin pâle. Aujourd'hui avale, quelqu'un du pays avale, venu jusqu'au puits avale. On attend l'eau là-haut, avale.
Vagabonde sur France Inter.
En 1950, la guerre d'Indochine fait rage. Elle coûte très cher à la France et conduit militaires et services spéciaux à monter des opérations ultra-secrètes. L'une des plus scabreuses s'appelle l'opération X. L'opération X est simple. Pour empêcher les hommes d'Ho Chi Minh, qui contrôlent le nord du pays, de déferler vers le sud, l'armée française pactise avec les Hmong, une ethnie qui vit de la culture du pavot. En échange de l'achat de la totalité de leurs récoltes, les Français se garantissent le soutien des familles Hmong et bloquent ainsi la progression communiste.
Trois régions avec d'importantes forces guerrières étaient également des lieux de production d'opium. Là, les Français aidaient les tribus locales à récolter le pavot. Des vols non enregistrés de l'armée de l'air française récupéraient l'opium puis se rendait à Vung Tao, appelé aussi Cap Saint-Jacques, où se trouvait une raffinerie. L'opium était ensuite livré à une mafia sino-vietnamienne sous la direction du deuxième bureau en Indochine.
Une partie de cet opium est vendue aux Corses de Saïgon, issus de la diaspora installée là depuis le 19e siècle. Ils envoient la morphine base vers Marseille, la transforment en héroïne et l'expédient aux États-Unis. Les bénéfices récoltés par le SDEC et l'armée française leur permettent de s'acheter une armée contre-révolutionnaire dans le nord du pays.
Dans cet extrait, on entendait la voix d'Alfred McCoy, un historien américain qui s'est spécialisé dans l'étude des services et des coups tordus des services. Christophe Nick, vous le disiez, en fait, l'après-guerre a été la période faste pour cette mafia corse, parce que il y a à la fois les guerres coloniales qui nécessitent beaucoup d'argent et qui entremêlent des intérêts un peu étranges, et puis il y a surtout l'influence américaine, parce que les Américains ont entamé leur grande lutte contre les communistes à l'Est, et donc on sait bien que les coups tordus sont permis dans cette guerre-là.
Oui, guerre coloniale et guerre froide. Donc on est dans la grande époque de la CIA, du grand n'importe quoi, du SDEC, et on a besoin de recruter de tous côtés. Aussi bien pour faire du contre-terrorisme en Afrique du Nord, la main rouge, c'est des trucs en Corse, voilà. Que de faire rentrer de l'argent dans les caisses du deuxième bureau du SDEC en Indochine, mais aussi de recontrôler le port de Marseille. Pendant les grèves insurrectionnelles de 47, c'est extrêmement délicat. C'est la porte d'entrée du plan Marshall pour le sud de l'Europe. Et donc là, il y a pas de question. Autant la CIA recycle quelques nazis, des Klaus Barbie, recycle aussi tous les truands, et quels qu'ils soient, même s'ils étaient les pires collabos torsionnaires.
Mais le pouvoir gaulliste aussi.
Et le pouvoir gaulliste et le Parti socialiste. Voilà, Jules Moch, ministre de l'Intérieur, quand il rentre frontalement en lutte contre les communistes, eh ben il a besoin des truands. Ils ont besoin des CRS. C'est ça qui est cette espèce d'âge d'or, c'est que tout d'un coup la demande n'est plus celle d'hommes politiques, c'est vraiment la demande des États et de leurs services secrets. Il va falloir alimenter. Alors du coup, on voit comment en Indochine tout permet la création de la French Connection. À un détail près. C'est aussi Cosa Nostra qu'il demande aux Corses.
Voilà, parce que se fait-il que les mafieux, j'allais dire exemplaires comme Cosa Nostra, aient besoin des Corses?
Parce qu'ils n'ont pas cette diaspora mondiale. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le trafic d'héroïne, c'est une véritable industrie qui mélange plusieurs métiers. Il faut être là à la récolte. Il faut acheter une récolte de la matière première, il faut la transporter pour la stocker, faire une première transformation chimique en morphine base, en opium, et ensuite la transporter pour la mettre dans des laboratoires pour en faire de l'héroïne, puis la conditionner et la retransporter pour la commercialiser. Les Siciliens ne contrôlent que la Sicile et les États-Unis. Et les Corses avaient à la disposition une diaspora qui était présente dans tous les ports des colonies françaises. Donc on voit bien que de Shanghai jusqu'à Buenos Aires, on va trouver des structures où dans l'appareil colonial ou dans l'administration française vont être à disposition le cousin d'un tel et tout, etc. C'est ce qui va faire leur force et donc cette obligation de garder le silence.
Et si je puis me permettre, il y a aussi une chose. Ces couloirs, en fait, avaient été créés au moment de la traite des Blanches. Donc en fait, c'est des premiers réseaux qui ont servi et qui servent de tunnels, en fait, et qui vont être renforcés. Donc tout est mis en place à ce moment-là. Et puis il y a une chose, c'est que l'héroïne est une invention allemande, et les Allemands qui se sont cachés en France après la Seconde Guerre mondiale se sont retrouvés dans le sud de la France et ont donné en fait les clés.
C'est là où il y avait les laboratoires.
Bah voilà, c'est eux, c'est certains chimistes allemands qui ont donné les clés de fabrication à deux frères, deux cousins, et qui ont su faire une héroïne que tout bon mafieux vous laisse procurer, absolument.
Est-ce que c'était la plus pure ?
C'était la plus pure.
Alors, on a vu l'arrivée des Américains dans le jeu. Effectivement, ils ont besoin d'argent, donc ils vont subventionner des transports d'héroïne. Sauf qu'il va se trouver un moment, dans le film, c'est raconté sous l'épisode French Connection, c'est où, en fait, les Américains vont lutter les uns contre les autres. Parce qu'il y a une partie des flics américains qui veut stopper ce commerce de la drogue. Mmh. Et puis, il y a les services secrets américains qui, au fond, s'en servent. Donc, c'est l'épisode de la French Connection.
On appelle ça une zone grise. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, l'appareil d'État doit tenir l'ordre, doit rendre justice, et en même temps, pour se protéger ou pour ses propres intérêts, va avoir besoin d'utiliser des hommes qu'il combatte. Donc, il va falloir les protéger, soit pour avoir du renseignement, soit pour faire des opérations homo, des actions, des choses inavouables. Bon. Et donc, c'est dans cette zone grise que le pouvoir politique, certains hommes politiques peuvent naviguer. Et il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Le pouvoir politique français n'est pas gangréné par la mafia. Par contre, là où la mafia peut rentrer, effectivement, il faut des hommes qui aient du coffre hein, pour encaisser ça et pouvoir dialoguer, donner des ordres. Donc évidemment, quand on a la puissance de l'État, voilà, les services secrets à l'extérieur ont la capacité de tuer qui ils veulent. C'est les mafieux qui comprennent tout l'intérêt qu'ils peuvent en tirer. Donc on vous rend service, et en échange de ça, on sera obligatoirement protégé. Ce secret-là, c'est ça qui est fou dans cette histoire. Il est transmis aux Corses aussi par les Siciliens. C'est Lucky Luciano qui, en 46, quand il est expulsé des États-Unis après tout ce qu'on sait, le débarquement des Américains en Sicile,
il a aidé au débarquement.
Le ralliement de Cosa Nostra aux Américains, il obtient une grâce qui lui permet de rester en Italie et il va rencontrer les Guérini, il va rencontrer les mafieux corses et il va leur apprendre ce secret, le besoin qu'il y a de pactiser avec le politique, d'être utile aux politiques pour avoir sa place. L'autre grand secret après, ça va être ayez votre propre État. Comme nous, on a Cuba, trouvez-vous un territoire. Et ce rêve cubain, c'est en fait ce qui structure toute l'histoire de la mafia corse.
Et ensuite, bien sûr, il y a cette guerre de la drogue. On va redonner la parole à Alfred McCoy.
Les États-Unis se sont rendus compte que le premier obstacle dans leur guerre contre la drogue résidait dans tous ces liens qui s'étaient développés. Des mafieux corses, comme Marcel Francisi, étaient en relation avec le gouvernement gaulliste. D'autres, comme les frères Guérini, étaient connectés au Parti socialiste. Et tous étaient liés à des forces de police parallèles, notamment le SAC, le Service d'Action Civique. Beaucoup de Corses appartenant à ces groupes mafieux étaient liés à cette organisation. Ils y avaient leurs entrées, et ils avaient aussi des protections politiques.
Les stupes américains sont impuissants. Chaque demande d'enquête, chaque commission rogatoire internationale est négligée par la France et le dossier s'épaissit entre Paris et Washington. À cette époque, selon certains repentis, la mafia corso-marseillaise promet à Cosa Nostra d'introduire aux États-Unis 20 tonnes d'héroïne par an. Revendue à 8 000 $ le kilo, l'héroïne générerait un chiffre d'affaires annuel d'environ 160 millions de dollars de l'époque, soit près de 1,5 milliard d'euros. De quoi entretenir de nombreux villages en Corse, d'investir massivement dans l'immobilier parisien, le tourisme, les grandes affaires, et d'aider le SDEC à financer ses opérations secrètes en Afrique comme au Moyen-Orient. C'est l'âge d'or de la French Connection. Les mafieux ont des montagnes d'argent à blanchir, et pour ça, rien de mieux que les cercles de jeu.
Christophe Bouquet, Christophe Nick, c'est l'âge d'or pour le SDEC et pour le SAC aussi qui vont tremper dans ces histoires. Mais l'élection surprise, enfin après le départ du général de Gaulle en 69, l'élection de Pompidou va un peu troubler le jeu. Il va essayer de nettoyer ces officines douteuses liées au service secret français et notamment le SAC. Et du coup, on voit surgir cette affaire Markovitch. À l'époque, personne ne comprenait très bien quel était l'intérêt de monter un dossier de toutes pièces contre Pompidou. En fait, c'est la réplique des mafieux qu'on empêche de jouer.
Un peu plus compliqué. Je dirais, c'est un clan au sein du pouvoir gaulliste extrêmement dur, de droite très dur, on va retrouver Pasqua, voilà déjà, hein, qui contrôle le SAC et qui est donc vraiment une police parallèle structurée autour de la mafia corse. Qui vont tout faire pour empêcher que Pompidou, jugé trop atlantiste, pas assez dur, et ça s'était vu en mai 68, la ligne entre De Gaulle et Pompidou était vraiment très divergente, l'empêcher de remporter la présidentielle, et donc de monter un dossier. Et donc on va utiliser cette affaire sordide Markovitch-Marcantoni pour commencer à faire circuler, alors fabriquer, par des officines très proches du SDEC et plutôt contrôlées par le SAC, donc de Charles Pasqua, des photos truquées de Madame Pompidou dans des partouzes et des balais roses. Bon. On est au début d'une campagne présidentielle et Pompidou ne va pas le supporter. C'est d'une violence inouïe d'abord. C'est ce qu'on appelle un chantier, une pure fabrication, une calomnie. Il va s'en sortir. Et donc, contrairement à ce qu'on a toujours dit sur la fin de la French Connection, où c'est Nixon qui vient à Paris pour tordre le bras de Pompidou, non, c'est d'abord Pompidou qui dit « mettons ça, ça suffit ». On réorganise de A à Z le sac, on nomme Alexandre de Maranche à la tête des services secrets français, on demande à Jacques Foccart de restructurer, et il y a un affrontement terrible entre Foccart et Pasqua à ce moment-là, pour le contrôle du sac, et Pasqua perd. C'est là où vraiment Foccart expliquera plus tard à Pierre Péan que le seul homme dont physiquement il a eu peur un jour, c'est de Pasqua. Voilà. Et que ça représentait quelque chose d'énorme. Mais effectivement, Pompidou n'a pas pu aller jusqu'au bout, c'est-à-dire interdire le sac. Il faudra attendre la tuerie d'Auriol et 82 pour ça. Mais n'empêche qu'il a réussi quand même à neutraliser. Et là, on a cette fin, donc l'anéantissement de la French Connection, qui commence quand même, rappelons-le toujours, par une tuerie entre eux. C'est quand même souvent ça, hein. Les mafias se disloquent parce que les gains sont tellement énormes qu'on s'entretue. Donc les Guérini disparaissent, etc. Et la deuxième génération s'effondre dans les années 70.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker, we kill the flame. Prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker?
Ready, my lord. parcours d'Étienne Léandri à partir de la milieu des années 50 est assez extraordinaire. Donc voilà un homme qui est condamné par contumace à 20 ans de prison, indignité nationale pour intelligence avec l'ennemi, et grâce à l'action de la CIA, il va se retrouver blanchi complètement. Non seulement blanchi, mais très rapidement, c'est quelqu'un qui va être installé et où, eh bien, tout simplement dans le système gaulliste. Donc c'est un personnage qui a une ampleur extraordinaire et en même temps qui réussit cette performance en faisant tout ça de ne pas apparaître au public.
Il y a une chose qui me fascinait chez Étienne, c'est la douceur de son regard et la transformation. Ça me donne des frissons encore, immédiates et terrorisantes. Je pense qu'il faisait très très peur.
Ce type d'homme n'a pas besoin de montrer aux autres qu'il est puissant, puisqu'il l'est. Il voit les hommes politiques lui manger dans la main.
On vient d'entendre la voix de Pierre Péan, reconnaissable, qui a écrit ce film aussi avec vous, Christophe Nick, et celle de Julien Commer, qui a été le dernier secrétaire proche d'Étienne Léandri. Alors, Étienne Léandri, il est dans ce film depuis les premières images jusqu'à la fin. Il a couvert toute cette période. On a entendu, on a lu son nom cité dans l'affaire Relf, mais très rarement. Et c'est un vrai gangster. Il a démarré sa carrière comme gigolo. Il a travaillé avec les Allemands d'une manière terrifiante. Il a trempé dans ce qu'il y avait de pire de l'occupation. Il a été ensuite en liaison avec la mafia sicilienne, en plein centre de la mafia corse. Il est corse. Ami très proche de Charles Pasqua.
Oui, c'est même lui qui le repère. C'est le petit Charles qu'on va faire monter. Donc c'est un personnage hallucinant. Il y en a pas beaucoup, même dans l'histoire de la criminalité, parce qu'on a quoi, 3-4 photos de lui, peu de traces. Des historiens sont penchés sur des bouts de sa vie, mais pas en le cherchant, en tombant sur voilà la première chose qu'il fait au fond, c'est de mettre la main sur la femme la plus riche du monde de l'époque, qui est mariée à un parfumeur richissime américain, et ce richissime américain va lui apprendre tous les secrets des multinationales, c'est-à-dire les paradis fiscaux, le blanchi, et ce type va se retrouver à la fois gigolo, et déjà dans les années 30 repéré par les stupes américains comme trimballant de l'héroïne, trimballant des choses vraiment la morphine base aux États-Unis. Il a 25 ans, il a fait son droit. Et il est à la table de Rému avec Maurice Chevalier, il danse avec Miss Tinguette, il fait la fête. Et il va continuer à faire la fête avec les nazis, rue Lauriston, en dansant sur les pianos avec Maurice Chevalier. Et on va continuer dans les années 50, donc ça devient plus compliqué. Il se retrouve en Italie. La CIA et Lucky Luciano Cosa Nostra vont en faire leur ambassadeur auprès de la mafia corse française. En 57, il est blanchi. Les gaullistes reprennent le pouvoir. C'est absolument incroyable qu'un gestapiste se retrouve à ce niveau de pouvoir à table avec Alexandre Sanguinetti, avec Comiti, avec tout. C'est incroyable. Et Jacques Faucard, il est dedans. Et le soir, il est au bar des Trois Canards avec la fine fleur des truands français. À la fin, ça se termine au 440. C'est-à-dire qu'il est au cœur du système Elf, il est au cœur du système Thompson, c'est lui qu'on va retrouver dans les frégates de Taïwan, c'est lui qu'on va retrouver partout. Et il y a un hôpital en Corée qui porte son nom. Il a une surface absolument incroyable. Il prend son avion privé pour aller à la Scala de Milan avec sa maîtresse qui est Marlène Dietrich. Il meurt à 95 ans.
Dans son lit.
Dans son lit, Charles Pasqua est toujours place Beauvau et lui a son bureau là-bas et il y rentre comme il veut.
Christophe Bouquet, dans le film, on entendait la voix de Julien Commer, qui un jeune homme qui... C'est très étonnant cette trajectoire. Il a été le secrétaire d'Étienne Léandri.
Il a été son secrétaire pendant presque un an.
Vers la fin de sa vie.
Vers la fin de sa vie. Lui, Julien Commer, avait 19 ans. C'était un jeune Corse qui débarquait à Paris, qui voulait faire un peu de journalisme et qui part des réseaux, des connaissances. On lui a présenté Étienne Léandri, voilà. Donc il a découvert ce monde, il le dit lui-même très bien dans le film. Il amène des petites assiettes de saucisson et autour de la table, il y a des banquiers, des policiers. le patron de Thompson, et tous les soirs c'est comme ça, et tout le monde vient et tout le monde discute la construction d'une maison, d'une autoroute, enfin tout le monde est très détendu autour de la table, c'est comme ça que ça fonctionne.
Le troisième volet de votre film Mafia République, c'est celui qui nous sidère le plus, parce que c'est celui où finalement tout ça devient, Christophe Nick disait CAC 40, mais c'est vrai que du coup ce sont les grands chefs d'entreprise qui acceptent de passer des vacances ou d'aller déjeuner, taper sur le ventre ou de se faire taper sur le ventre par des chefs mafieux avérés parce qu'il faut obtenir des contrats, alors en Afrique, au Moyen-Orient, et que c'est à nouveau par la mafia corse qu'on peut passer pour obtenir le bon personnage qui va pouvoir débloquer un dossier. C'est comme ça que ça se passe.
Ils savent exactement comment fonctionnent les présidences africaines déjà. Il y a Robert Fitchedji, qui est un enfant du pays, qui est né au Congo. Au début, en fait, il a juste le rôle d'intermédiaire. Il est là, il a un hôtel à Pointe-Noire, et puis voilà, il y a des personnages qui arrivent, il met en contact les gens. Puis c'est des gens extrêmement fins, extrêmement intelligents, qui deviennent indispensables. Comment ouvrir des contrats
Parce que l'Afrique devient le continent sur lequel on va pouvoir faire des prodigieux profits.
Alors, on a focalisé là-dessus, on aurait pu regarder du côté du Proche-Orient, voilà, etc. Mais effectivement, l'Afrique, c'est absolument passionnant, parce qu'on a ce système France-Afrique mis en place par Jacques Foccart, qui se transforme au fil des ans en Corse-Afrique. Et effectivement, quand Elf commence à découvrir du pétrole à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, puis après au Gabon, etc., il faut créer des infrastructures, il faut des hommes qui gardent les chantiers, il faut une cantine, il faut tout ça. Qui va pouvoir fabriquer ça? Qui va être assez proche de chef d'État dans les années 70? C'est encore très compliqué entre l'anticolonialisme, etc. Il y a des Corses sur place qui connaissent tout le monde et qui arrangent ça. Donc on a d'un côté une présence sur le terrain et de l'autre côté, avec Étienne Léandry, quelqu'un qui sait parfaitement comment dissimuler des centaines de millions qu'il faut dissimuler. Et donc cette connaissance des réseaux internationaux de financement, Étienne Léandry, à ce moment-là, il est à la loge P2. C'est l'ami de Daniel Hill, patron de Fiat. Donc on parle avec des grands. Les histoires africaines, allez, on continue. Donc on va monter des structures, notamment une banque qui va s'appeler la FIBA, qui va associer, c'est complètement fou, mais c'est comme ça, Omar Bongo, Denis Sassou Nguesso, le groupe Elf, et avec Robert Fitchedji qui va servir tout le monde. Voilà. Et cette structure-là va se retrouver après dans le cadre d'une autre structure qui s'appelle la SED et qui là va servir absolument à tout le monde. Aussi bien à la mafia corse qui se recompose au sein de la Corse elle-même. Donc là, on parle de Jean G. Colonna, on parle de la Brise de Mer avec Richard Casanova, on parle de ça. Mais avec l'argent d'Afrique et puis l'argent du CAC 40.
Alors, au début de ces trois films, on se rend compte que lorsque la mafia corse est partie à l'assaut du continent français, il y avait une sorte de pacte, c'est-à-dire que les règlements de compte entre branches opposées se faisaient sur le continent et on laissait l'île à l'écart des règlements de compte. On voit bien, depuis quelques dizaines d'années, que les règlements de compte ont lieu également. Parce que du coup, vos films nous permettent d'avoir enfin une petite lueur de compréhension sur pourquoi on se tue à ce rythme-là en Corse.
Oui.
Et en fait, il y a eu une utilisation par la mafia des rivalités entre nationalistes.
Voilà, et des dérives nationalistes elles-mêmes. Voilà, qui eux-mêmes vont du côté mafieux. Donc on est sur quelque chose de compliqué. Effectivement, naissance du mouvement indépendantiste dans les années 70, qui correspond au moment où la French Connection s'effondre, où il n'y a plus les revenus de la colonisation, et où vraiment la situation économique et sociale en Corse est très très difficile. Bon. Et les pieds noirs qui sont arrivés d'Algérie et qui ont d'autres méthodes agricoles et qui ringardisent tout d'un coup. Bon. Bref, on est dans une période de grande tension sociale. Très vite, ça monte aux extrêmes. Très vite, on passe à la lutte armée. Et c'est le moment où il n'y a plus vraiment de grands parrains. Voilà, il reste Franchisi à Paris, il reste Mondoloni qui est à Marseille. Mais en Corse même, il y a les vieux de la French Connection qui survivent et qui ont leurs établissements, leurs trucs, etc. Mais il n'y a plus vraiment d'autorité. Et arrive une nouvelle génération qui va s'incarner à Marseille par la Brise de Mer, qui, eux, alors sont des fils de bonne famille en plus. Hein, tout va bien pour eux. Là, on n'est pas dans la misère des précédentes générations, et qui, eux, vont réinventer du banditisme classique et en vivre mais de l'île. Et ça, c'est complètement nouveau. C'est-à-dire qu'utilisant, se cachant derrière la violence des nationalistes, des Nuits Bleues, etc., vont en profiter pour faire un ou deux casses extrêmement spectaculaires, et tout ça va s'entremêler. Mais en même temps, comme les nationalistes ont besoin de faux papiers, ont besoin d'armes, ont besoin de trucs, bah, la porosité va se faire. Au point que des hommes du FLNC deviennent des piliers de la Brise de Mer, Richard Casanova. Et que Jean-Gé Colonna, qui lui va arriver autour d'Ajaccio dans le sud, va devenir aussi l'arbitre quand le FLNC va exploser, et parce qu'il faut un arbitre clandestin, on va pas aller voir des policiers pour dire « il m'a piqué ma voiture ». Donc c'est les truands qui deviennent les arbitres, et en même temps, on passe des pactes. Bon, ben alors si on fait ça, moi je suis nationaliste, j'ai une société de gardiennage, vous les mafieux, vous attaquez pas mes trucs, hein, d'accord. Bon, d'accord, etc. Et on va se rendre compte que des structures seront bizarrement très épargnées en Corse. Il n'y a jamais eu une bombe sur la moindre enseigne Elf, par exemple.
Oui, et c'est vrai qu'il y a un projet qui se recoupe entre nationalistes et mafieux. Si on le disait au début de cet entretien, c'est le rêve cubain. Ça veut dire que c'est prendre un territoire, avoir les frontières, l'aéroport, toutes les structures. Et là, pour le coup, qui peut mieux que les nationalistes défendre ce projet? Alors, on a une fusée à plusieurs étages. Premier étage, c'est les nationalistes. Puis derrière, bah, il y a les mafieux qui sont là, qui poussent, qui mettent la force et la puissance pour que tout ça avance.
Et le dernier étage vont être des politiques. Mmh. Effectivement, Robert Felicetti, à un moment, va décider que son futur n'est plus en Afrique, mais va venir en Corse, va s'installer dans les années 90, va devenir conseiller régional, va devenir l'homme de Pasqua dans l'île, et va utiliser la violence des nationalistes pour rentrer dans le processus de Matignon, les négociations avec Lionel Jospin. C'est le moment où Jean-Pierre Chevènement claque la porte du gouvernement, parce que lui a compris avec qui on discute, et que Lionel Jospin ne le voit pas et ne veut pas l'entendre, il veut une paix. Et là aussi, c'est le grand truc de tous les politiques. Il y a un moment, ceux qui jouent avec la mafia, il y a aussi ceux qui disent « je suis là pour avoir de l'ordre, et si c'est la mafia qui m'amène l'ordre, eh ben ce sera la mafia ». Ce qui a toujours été la gestion des faubourgs. Voilà. Que les plus forts fassent que le bourgeois puisse aller s'encanailler sans risquer d'être seriné. Bon, ça, c'est une vieille histoire. Mais toujours est-il qu'on pactise là-dedans, et c'est l'immense erreur. Et finalement, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que c'est le peuple corse qui refuse ça. Ce sont les Corses eux-mêmes qui votent non au référendum de 2005. Ce que Nicolas Sarkozy n'a jamais compris, et ce que tous ceux qui ont porté ce processus n'ont pas vu, c'est que les Corses, eux, savent ce qu'il y a derrière.
Mais ils n'ont pas envie de devenir des Cubains des années 50. On va donner la voix de Michel Debacque, un grand flic, et du juge Thiel, qui, eux, savent bien de quoi ils parlent.
La Corse du Sud, on a la volonté de prendre en charge des territoires, de contrôler des territoires. Il y a dans toutes les villes et les zones importantes de la Corse du Sud, des clans. Et ces clans-là font allégeance à Jean-Gé Colonna et à ses amis. Et dans ses amis, il y a Robert Felicetti. Ils font allégeance et donc on a une espèce de petite coupole Corse du Sud, qui est en relation avec les milieux politiques, les milieux, je dirais même, administratifs.
C'est une mafia. C'est quoi une mafia? C'est une organisation criminelle qui est hiérarchisée, qui est structurée. La mafia est une institution qui pénètre la société civile, qui crée des zones grises autour d'elle, qui prend le contrôle du tissu économique et peu ou prou du tissu social, et qui fait régner sa loi, à commencer par celle de l'omerta.
Voilà, c'est ce film en trois volets, Mafia et République, que l'on pourra voir mardi 7 février à 20h55 sur Arte. Et vraiment, Christophe Nick, je me félicite que vous n'ayez pas pu faire une fiction, parce que je pense que ça aurait été beaucoup moins intéressant, beaucoup moins passionnant, et on aurait compris beaucoup moins de choses. En tout cas, c'est un documentaire particulièrement réussi. Merci beaucoup, Christophe Bouquet. Merci Christophe Nick.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Eh bien, c'est fini pour l'humeur vagabonde de ce dimanche, mais si vous le voulez bien, nous nous retrouverons dans une semaine. Je recevrai l'artiste Valérie Mrégène pour son dernier livre. Et bien sûr, France Inter continue après les informations de 15h. Vous avez rendez-vous avec Fabienne Chauvière et les Saventuriers. Très bon dimanche à l'écoute de France Inter.